Les chroniques de Radio PGDG. Des élèves rencontrent un auteur.
On a eu la chance de rencontrer un migrant, Omar Youssef Souleyman. Cette rencontre se déroule dans le cadre du cours de GOEMC. Il était en résidence artistique à la Charité et a accepté de nous rencontrer. Il s'agit d'un journaliste, écrivain, poète syrien et français qui a publié plusieurs livres. Les plus connus sont Le Petit Terroriste, Le Dernier Syrien, Une Chambre en Exil. Il évoque beaucoup de thèmes, mais tout particulièrement son arrivée en France, les difficultés d'arriver dans un pays et la maîtrise de la langue.
Cette rencontre était très intéressante parce que ça nous permettait de voir son point de vue quand on arrive en France. Donc c'était assez intéressant. Il nous a raconté une anecdote assez marrante. C'est que quand il a descendu de son avion à Orly, il a dû prendre le RER. Et il se posait des questions parce que tout le monde courait dans tous les sens. Et donc lui s'est mis à courir dans le métro parce que tout le monde courait, sans trop savoir pourquoi. Après on a vu son point de vue sur la culture, sur la difficulté d'apprendre le français. Tout est différent, l'intonation est différente, donc c'était intéressant de voir. Et donc on vous laisse avec l'interview d'Omar Youssef Souleyman.
Quand on avait pas le choix de quitter son propre territoire, et puis on a une nouvelle vie à l'extérieur de son pays où on passe des années et des années. En France, ça fait 11 ans où je vis ici. Donc j'ai une vie ici, j'ai mes amis ici, j'ai mon travail ici. J'écris dans la langue de Paul Éluard. Vous connaissez Paul Éluard ? C'est un poète et un résistant français. C'est une des raisons pour lesquelles je suis venu en France d'ailleurs, car il m'inspirait toujours, que je l'avais lu déjà en arabe. Il a un poème magnifique qui s'appelle « Liberté ». J'écris ton nom, vous pouvez le trouver sur Google. C'est un poème très touchant, très beau. Et toute la poésie de Paul Éluard, moi, je suis vraiment fan. Et donc, le retour en Syrie, si aujourd'hui, que le régime syrien tombe de part, je rentre demain, bien sûr. Mais la question est, est-ce que je peux rester ? Est-ce qu'on peut vraiment continuer sa vie ? Sur son propre territoire, après toutes ces années qui ont passé, pendant lesquelles on a tellement changé. On n'est plus la personne qui a quitté son pays. Moi, j'ai quitté la Syrie quand j'avais 25 ans. Aujourd'hui, j'ai 35 ans. Donc, j'ai grandi en France, j'ai appris beaucoup de choses. Je suis français aujourd'hui, j'ai la nationalité. Et donc, ce n'est pas évident de rentrer et de revivre comme Syrien là-bas. Parce qu'il y a une distance, ce n'est pas seulement la distance géographique, mais aussi il y a la distance vis-à-vis du temps. Les gens qu'on a quittés sur notre propre territoire, ils ont beaucoup changé.
Qu'est-ce que vous avez pensé de la France quand vous êtes descendu de l'avion à Paris et les premières semaines, parce que entre les poèmes de Paul Éluard et la France, il doit y avoir une sacrée différence, non ?
Vous savez, chaque pays, quand on prononce le nom d'un pays, il y a toujours une image qui arrive à l'esprit. Si je vous dis, par exemple, le Brésil, vous pensez à quoi ? Carnaval, voilà. Qu'est-ce que c'est le Brésil pour vous ? Oui ? Football, grave, moi aussi, oui. Je bats du tout le football, mais je pense que le Brésil, c'est le football, oui. Moi, je pense aussi au café, parce que le café brésilien est top. Et donc, arrivons à Paris. Vous savez, d'ailleurs, ce cliché est vraiment relatif. Parce que, par exemple, pour moi, Paris, avant d'y arriver, c'était effectivement le croissant, le pain au chocolat, les baguettes, les gens très amoureux, le chapeau, le béret, les gens élégants qui mettent des châles, l'amour, tout le monde sont amoureux. Où se trouve aussi le théâtre, le cinéma, les lumières. Paris s'appelle la ville des lumières. Vous savez pourquoi on appelle Paris la ville de la lumière ? Vous pouvez chercher sur Google. Ça n'a rien à voir avec la lumière, hein, ni la Renaissance. C'est pour une autre raison. Et donc moi, c'était en fait, j'arrive à l'aéroport Charles de Gaulle et toutes ces images étaient ruinées pendant une minute. Genre l'amour, le théâtre, le cinéma, la lumière, etc. Et la poésie, il y a aussi la littérature, Victor Hugo. Et donc ces images, j'ai trouvé, la première chose que j'ai découvert, c'était ce qu'on appelle RERB à Paris, qui ressemble vraiment à un cauchemar, surtout avec le klaxon sonore. machin, il l'arrête. Et comment on est enfermé comme dans une boîte de sardines à RERB, mais l'image typique de Paris, qui est très très parisienne, c'est que tout le monde court dans tous les sens. Et j'avoue, jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi on court à Paris. Et si on ne court pas, même si on n'est pas en retard, tout le monde nous regarde bizarrement. Donc, je sors de l'aéroport, je vois tout le monde court, j'avais l'impression qu'il y avait un attentat, ou il y avait un problème, et je courus, mais je trouvais que c'était normal, et depuis je cours, je ne sais pas pourquoi. On est pressé, vraiment, on est pressé, on est inquiet, on est angoissé à Paris, c'est une ville d'une énergie un petit peu négative. Effectivement, c'est une ville très très riche culturellement, il y a toujours des événements culturels, il y a des spectacles, il y a tout le temps des expos, et une ville d'une histoire incroyable. Ah, il y a un cadeau, donc, Margot. Elle est où, Margot ? Toi, Margot, chantez.
On a choisi un extrait de votre livre « Une chambre en exil » et on va je vais le lire et il va être accompagné par Vi qui va jouer du violon. Dès que j'ai vu cette chambre, je suis tombée amoureux de sa grande fenêtre. Peu m'importait que l'ancienne locataire m'ait appris qu'un des murs était humide, ça ne me dérangeait pas. Je suis en train d'effacer l'humidité de mes jours. D'abord, faire face à la difficulté de vivre en tant que réfugié. L'état des murs viendra plus tard, beaucoup plus tard. Si elle avait su quelles épreuves j'allais traverser pour arriver ici, elle n'aurait pas dit cela. Je notais des numéros, téléphonais, discutais, faisais des visites. Mon but était d'avoir une pièce calme en région parisienne, peu importait la surface. C'est en effectuant ce périple que je suis devenue addict. Dans ma tête, l'image de Charlie Chaplin dans Les Temps modernes s'impose lorsqu'il travaille dans l'usine à serrer les boulons. Quand le patron fait tourner la machine plus vite, Chaplin se serre au diapason et devient fou, il veut serrer tout ce qui se présente à lui. Dans mon cas, avec ses logements, quand je voyais une nouvelle annonce, j'envoyais tout de suite un message, sans m'attarder sur les détails. Je suis intéressée par votre annonce. Et je composais un numéro de téléphone. On me demandait mon origine à cause de mon accent, et dès qu'on savait que j'étais syrien, invariablement la réponse était « Désolé monsieur, logement n'est plus disponible ».
Merci beaucoup. Merci infiniment. Et cet extrait, merci de le lire, vous savez, chercher un logement à Paris, c'est vraiment l'enfer. Et au moment de qu'on se sent refusé d'une manière ou d'une autre par rapport à notre maison, pour trouver un toit, pas importe où, surtout à cause de notre origine. Ça, c'est malheureusement très présent dans la région parisienne.
Est-ce que vous êtes nostalgique de quelque chose qu'il n'y avait qu'en Syrie ou en Arabie quand vous y avez passé une partie de votre vie là-haut et qui n'est pas en France ?
Je pense que la nostalgie, en général, c'est une idée qu'on partage tous. Mais une fois qu'on vit à l'étranger et qu'on est d'une manière ou d'une autre exilé ou condamné à l'exil, comme on a dit tout à l'heure, et on n'a plus le droit de rentrer chez soi, et surtout, car la majorité des quartiers où on a grandi, on a passé notre enfance, sont devenus des ruines. Par exemple, à Homs, où j'ai fait mes études, la vieille ville n'existe plus. À Damas, plusieurs quartiers où j'ai passé ma jeunesse n'existent plus. Ces quartiers, ces lieux auxquels on a la nostalgie, n'existent pas dans la réalité, géographiquement. Mais ils existent seulement dans la mémoire, en soi-même. Donc, et les gens aussi qui ont tellement changé. On a la nostalgie et vers les gens qu'on a quitté et vers les lieux. Donc les lieux n'existent pas et les gens ont changé. Donc on aura la nostalgie vers quoi exactement ? C'est une question vraiment difficile à répondre. Et en même temps, on a un sort de nostalgie vers l'image qu'on a gardée de son propre territoire. Mais il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus intéressantes, je crois, et plus importantes que la nostalgie quand on est exilé, c'est la mémoire. On devient de plus en plus concentré vers la mémoire, accroché vers l'enfance, vers les souvenirs typiques et très intenses qu'on avait vécu, qui font partie aussi de sa propre identité, qui nous inspire à écrire, et à créer et à continuer pour être vivant. Et ces images, cette mémoire et ces souvenirs deviennent aussi comme une source d'inspiration à l'avenir. Et tout ça, je pense, c'est au-delà de la nostalgie. tu vois. Parce que la nostalgie existe aussi pour, même par rapport des lieux ici en France. Que je, par exemple, là, quand je pars de ce lycée, vous allez me manquer, parce que je vous ai beaucoup aimé. Donc, j'ai la nostalgie vers vous, tu vois. Mais ça n'a rien à voir avec la nostalgie, avec la mémoire syrienne, d'une manière ou d'une autre, ruinée. Tu vois. Donc, non, la nostalgie ne m'intéresse pas trop pour la Syrie. Oui. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Oui. Tu t'appelles comment?
Kylian,
encore. Pardon, c'est la mémoire.
Par rapport au, mode de vie ou au quotidien en Syrie et par rapport à la France, qu'est-ce qui vous a le plus choqué? Vous avez trouvé vraiment différent ou absurde?
Quand on arrive par exemple, si on barre tous maintenant, tout change. C'est incroyable. L'air, les odeurs, la nourriture, les gens. Et au bout d'un moment, il y a une distance entre soi et la vie quotidienne. On se trouve, surtout quand on vient sortir d'une guerre, tu vois. Et cette distance ne nous permet pas, ou à cause de cette distance, on perd le goût de la vie quotidienne. Au début, quand je servais à Paris, je ne comprenais pas comment les gens pouvaient manger, boire, discuter, s'amuser en terrasse. Et ça, c'est ce qu'on appelle la dépression. Tu vois, on était déprimés, effectivement. Mais il y a tout échange au niveau même nourriture, par exemple. J'étais tellement choqué par rapport à ce qu'on appelle la baguette. Pour moi, c'était un sandwich, c'était pas une baguette, parce que j'étais habitué à la galette. En fait, la plus grande question, quand on arrive dans un nouveau pays, on ne savait pas. On ne sait pas jusqu'à quand on va rester, quand on va rentrer, est-ce qu'on va aller ailleurs. Mais au bout d'un moment, il faut vraiment décider. Donc j'ai décidé de rester en France et apprendre la langue française, même si je ne resterai pas à l'avenir. Mais une fois qu'on apprend la langue et on voyage aussi dans ce nouveau pays, on voit les côtés positifs et négatifs de ce pays à travers un regard étranger. Je pense que ça, c'est intéressant. Tiens. En fait, j'ai coupé tous mes liens avec la langue arabe parce que pour apprendre vraiment une langue le plus vite possible, il ne faut jamais prononcer sa langue maternelle pendant une période. Pendant une année, je ne parlais jamais arabe. Je sortais toujours avec des gens, avec des Français ou des gens qui ne parlaient que le français pour m'obliger d'écouter et de parler le français. Et je ne comprenais rien ce qu'ils disaient, mais je faisais semblant de comprendre et ça a marché.
Est-ce que quand vous étiez jeune, vous aviez déjà pour projet d'écrire des livres, etc.?
Donc quand j'étais jeune, ça veut dire là je suis vieux. Merci. Ça me touche. Hein. Je rigole, oui. Ouais. En fait, si tu veux, je pense que oui, quand j'avais un petit peu votre âge, j'écrivais toujours des poèmes. Et c'est comme un sort d'existence pour nous depuis quand on est même enfant, tu vois. Je me souviens la première fois où j'ai écrit un texte littéraire, pas un poème. Il s'agissait d'une lettre, et d'une lettre d'amour. J'avais 11 ans quand je suis tombé amoureux la première fois. J'avais un coup de foudre à une fille qui avait aussi mon âge, parce qu'elle jouait de guitare. Et je voulais lui dire que je l'aimais, mais je ne savais pas comment. Alors la seule solution à l'époque d'ailleurs pour séduire ou pour faire une déclaration d'amour, on n'avait pas de WhatsApp, on n'avait pas de Snapchat, hein. On n'avait même pas de portable. Et donc on écrivait, et je trouvais que c'est beaucoup plus beau, écrire une lettre à la main, une lettre d'amour littéraire, à la place de faire une déclaration d'amour sur TikTok, désolé, franchement. Et à l'époque, la mode, c'était dans les années 90, pour écrire une lettre d'amour, et c'est là où j'ai découvert vraiment le talent, parce qu'on a toujours une raison pour laquelle on écrit un texte littéraire. Et donc, pour faire cette déclaration à l'époque, il faut écrire la lettre sur un papier bleu ou rose ou rouge, oui, et bien décoré avec des icônes de cœur, et mettre la lettre dans une enveloppe parfumée, et donner à la main la lettre. Franchement, c'était tout en démarche, quoi. Donc j'ai tout fait, et le moment de donner l'enveloppe, la lettre, j'ai écrit une lettre très littéraire, machin, avec des poèmes, machin. Une fois que cette fille est sortie, parce qu'on était bas mixte pendant le camp, sortie de la partie des filles, c'était le moment le plus difficile. Donner la lettre, putain, comment faire? Il faut vraiment avoir beaucoup de courage. Donc, je lui ai donné la lettre, je lui ai dit que peut-être que ça t'intéresse, bon, je pense que c'est à toi. Les heures suivantes, c'est ça l'angoisse, vraiment, en attendant sa réaction. Est-ce qu'elle va me parler plus? Est-ce qu'elle va me dire non mec, je m'en fiche? Est-ce que j'ai un copain? Est-ce que oui? Franchement, le tremblement de terre. Et donc, j'attendais qu'elle sorte parce que la soirée, on passait les soirées ensemble. Je baisse et là, je vois de loin qu'elle venait sur moi, vers moi et souriait. J'étais souriante. Et là, ça m'a rassuré. Et elle m'avait dit merci pour cette belle lettre. Et là, j'ai senti que j'étais le roi du monde. Waouh, c'est magnifique, franchement. J'ai réussi, comme on dit. Et comme on dit, vous disiez quoi? On a bécho, c'est ça? On a pas bécho. Mais après, on s'était bavé. Hein. Bref. Mais est-ce que c'était très intéressant cette expérience, parce que ça m'a ouvert les yeux vers comment on déclarait ses sentiments, pour exprimer ses sentiments à travers la littérature, à travers la poésie. Donc revenons à ta question, effectivement, depuis j'ai découvert mon existence dans la littérature, pas seulement pour faire des déclarations d'amour, mais aussi pour s'exprimer, pour trouver l'harmonie avec le monde entier. Parce que quand on parle, quand on a par exemple une sorte de souffrance, quand on a des idées, et on écrit ça, vous savez, on écrit tous aujourd'hui, sur WhatsApp, sur Snapchat, sur Messenger, etc. On écrit tout le temps, on exprime par l'écriture, par des textos. Est-ce que parfois on n'exprime pas dans sa vie quotidienne? Mais la grande différence entre l'écriture des textos sur Internet ou même la parole, la communication et le texte littéraire est vraiment, c'est très grande, parce que le texte littéraire, on exprime beaucoup plus profondément en utilisant, en impliquant notre propre imagination dans un texte. C'est comme si on refait le monde à travers sa plume. Et je trouve que c'est tellement joli et ça nous soulage. Vous savez que l'écriture, c'est comme un sort de psychothérapie. Alors, je vais l'expliquer à tout le monde, c'est mieux, oui. Alors là, on a les trois bagages. Tu peux les montrer comme ça, s'il te plaît.
C'est par rapport à deux textes que vous avez écrits.
Et l'arbre, c'est quoi?
L'arbre, ça représente la vie. C'est par rapport à ce que vous avez écrit aussi. Il y avait trois idées, il y avait votre mère aussi.
Elle est où, ma mère?
Ici.
Oui. Oh, elle est belle.
Et là, il y a l'arbre.
Oui.
Et là, les valises.
Top. Et derrière, il y a comme des montagnes.
Des ruines.
Des ruines, oui, c'est ça. Je vois. Et c'est quoi les phrases? Tu peux les lire, s'il te plaît?
Ok. Arrivé chez les veilleurs du néant, nous avons dit adieu à la guerre, adieu aux portes de la ville, nous y avons laissé en consigne nos valises chargées de ruines. Loin de Damas, 2016. Et l'autre texte. En automne, le bord des feuilles entaille mon cœur, un seul arbre fleurit dans l'absence, irrigué par les murmures de ma mère. Le petit terroriste, 2018.
Merci Alexandre, j'adore.
Donc là, ça va être à côté de ce poème dans ma chambre.
Vous savez, c'est ça l'échange, c'est ça l'intérêt de la littérature, ce poème que vous avez écrit, ou l'art tout court. C'est la communication, les contacts humains qu'on garde pour toujours, tu vois. Et ça, c'est très beau et très intéressant, parce que normalement, les rencontres physiques avec des gens, ça ne continuera jamais. Mais les mots, ils restent. Récemment, il y a un écrivain, c'est le premier écrivain que j'ai lu son roman en entier. Un petit roman qui s'appelle Une grande vie. Et cet écrivain s'appelle Christian Bobin. Et vraiment, je vous conseille de lire. C'est un style très poétique, d'une extrême délicatesse, très profond et très simple à la fois. Vous devrez partir maintenant? Ok. Dans ce cas, on arrête là. Je suis désolé, y a pas de choix. Et je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne continuation et bon après-midi. Et merci beaucoup pour les cadeaux. On va prendre une photo. Allez, tout le monde, pour les souvenirs. Et si quelqu'un parmi vous a une question, vous pouvez me contacter sur Instagram. Mon nom, c'est là. C'est ça, Omar Youssef Souleymane.